Depuis 2022, les ateliers et les conférences de Vinapogée sont enregistrés pour que vous, amateurs de vin, puissiez écouter et réécouter afin de vous divertir et apprendre au fil du temps histoire, expérience, gourmandise, savoir. Michel Bétane fut longtemps professeur agrégé de lettres classiques. Il a eu la bonne idée d'agrémenter ses loisirs en suivant les cours de dégustation de l'Académie du vin à Paris en 1977. Il y devint rapidement professeur, puis, dès le début des années 1980, collaborateur principal de la Revue du vin de France. En 1995, il crée avec Thierry de Sauve la première édition de leur guide annuel des vins de France, qui s'appelle désormais le nouveau Bétane et de Sauve. En 2005, Michel fonde Bétane et de Sauve avec Thierry dans le seul but d'informer et de guider les amateurs de vin en France et à l'étranger. Il nous fait l'honneur et l'amitié de livrer son interprétation de la maturité du vin. Il nous parlera avec son cœur de cet apogée que les amoureux du vin recherchent avec passion.
D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce très beau salon de m'avoir demandé de venir. Je n'ai pas pu le faire l'année dernière à la mémoire de Puisée parce qu'on était occupé, j'étais dans une autre partie de la France, et de faire cette conférence sur un sujet qui est intéressant, qui est forcément lié, évidemment, au salon, qui est Salon Apogée, et de vous parler un peu de l'importance de la maturité dans un vin. Je le fais avec d'autant plus, je dirais, de tranquillité d'esprit, qu'on m'aurait demandé une conférence sur ce sujet il y a 40 ans, je me serais senti beaucoup moins capable de la faire, parce que la maturité, j'ai fini par l'acquérir, moi-même. Bon. Donc, il vaut mieux demander à quelqu'un qui a de la maturité de parler de la maturité plutôt qu'à quelqu'un qui n'a aucune idée de l'évolution de ça sur son propre corps, sur sa propre intelligence, sur sa propre manière de faire. Puis c'est un sujet qui est à la fois une logique, philosophique, culturelle, littéraire. Ce salon est avant tout un salon culturel, c'est ça qui est très bien, puisque c'est la culture et l'art du vin français qui est mise en valeur par un salon de ce genre. Ce n'est pas un salon, je dirais, commercial, c'est un salon qui montre ce que sont les beaux vins français et leur capacité à s'exprimer sur la durée, qui est une chose à la fois simple, mystérieuse et pas si nouvelle que ça. Alors, pour arriver à comprendre tout cela et pour arriver à avoir une vision plus large de la chose, il faut s'émerveiller devant le produit qu'est le vin. Le vin est un produit. C'est un produit qui est au croisement égal et incroyable du don de la nature et du savoir-faire humain. La nature offre la matière première, mais cette matière première est travaillée par l'homme. Bon. Et depuis toujours, le vin a fasciné les hommes dans notre civilisation par ce côté double. La mère nature, avec un lien vers la religion, vers les choses, les mystères, les choses qu'on ne comprend pas, pourquoi il fait beau, pourquoi il ne fait pas beau, pourquoi rien, et le savoir-faire humain. Au point que le vin et la vigne sont devenus des symboles incroyables, puisqu'ils pouvaient être symboles de l'humanité et de l'humanité souffrante, dans les textes bibliques, mais en même temps, symboles de la divinité. D'accord. C'est extraordinaire d'être les deux à la fois avec le même produit, etc., etc. Bon. Et ça veut dire aussi que dès le départ, les hommes qui ont consommé ce produit, et donc qui l'ont consommé, je dirais, de façon conviviale, dans le partage, et donc dans l'échange des sentiments, dans l'échange des émotions, dans l'échange de beaucoup de choses, les hommes ont eu tendance à, pour se comprendre, pour arriver à communiquer leurs émotions, à trouver des analogies. Trouver des analogies pour que les différences individuelles de culture, d'âge, etc., au fond, s'affaiblissent par un tronc commun qui est le tronc de l'humanité. Et donc l'âge fait partie de ces choses profondément humaines que l'homme, par définition, ressent dans sa vie, individuelle, mais également dans la vie sociale, et qu'il applique au vin. Et je suis très content qu'on m'ait demandé de parler de maturité et pas de vieillissement. Parce que vieillissement nous conduit, par opposition, à confronter jeunesse et vieillesse et à entrer dans l'idéologie. Avec la politique, avec tout ce que vous voulez. Soit les jeunes sont intelligents hein, et les vieux sont des idiots, soit l'inverse, etc. Tandis que maturité et immaturité, ce sont des éléments hein, qui montrent un chemin et un voyage que nous faisons dans notre vie, mais que le vin fait aussi dans la sienne. Et l'homme a tout de suite vu et rapproché les choses. Et en même temps, a été amoureux du vin jeune parce qu'il était relié à la nature, à la renaissance de la nature, au fait que le printemps succède évidemment à l'hiver, que les arbres retrouvent leurs feuilles, que la verdure soit là. Et vous connaissez par exemple dans toutes les civilisations asiatiques l'intérêt de ce renouveau et donc l'intérêt qu'ils éprouvent devant le vin nouveau, hein, qui remonte à très loin dans leur expérience, dans leur culture, dans leur sensibilité. Et puis le vieillissement qui apporte soit la sagesse, soit l'apaisement, soit tout ce que vous voulez, etc., etc., etc. Bon, l'âge et la maturité. Simplement, alors ensuite, il y a eu évidemment la valeur commerciale, l'utilisation de ces deux extrêmes du vin, le vin très jeune, le vin très vieux. Le vin très vieux étant plus rare, coûtait plus cher et avait une capacité à faire parler de lui, à faire connaître des régions, des origines, plus que des autres. Car très tôt, et dans les plus vieux textes que nous avons sur le vin, les textes grecs, Homère, Hésiode, etc., nous savons, un, nous commençons à appeler les vins du nom de leur lieu de naissance. Les îles hein, de la Grèce, par exemple, ou des crues. Dans les textes latins, on sait par exemple que Falerne était le vin, hein, et les vieux Falernes. Bon. Quand vous allez au musée d'Arles, vous vous apercevez hein, que bon, alors les vins n'étaient pas élevés en fût, mais étaient élevés dans des dolias, des doliums. Bon, hein, le pluriel, c'est dolia. Ces dolias, ils voyageaient sur les bateaux, ils allaient. Hein, et on a retrouvé des dolias intactes et qui sont au musée d'Arles, dans lesquels est inscrit par quelqu'un qui, sur le bateau, avait indiqué que c'était bien un cru qui venait de cette île-là, hein, de cette qualité-là, et il mettait son propre nom pour garantir, si vous voulez, pour vous indiquer que le nom de lieu dans le vieux vin était là. Et le vieux vin était rare, mais ce n'était pas du tout le même produit qu'aujourd'hui. Bon. Le vin qui vieillissait dans l'Antiquité, c'était un vin qu'on n'aurait pas pu boire dans nos bars branchés bobos, puisque il y avait beaucoup de choses qui étaient ajoutées au vin d'origine. Ce n'était pas un vin sans addition, sans machin ajouté, sans un. C'était un vin avec du sel ajouté, de la poix ajoutée, des stabilisateurs ajoutés, tout ce que vous voulez, etc. etc. Et qu'on ne pouvait pas boire tel quel, il fallait le couper d'eau, un quart, un cinquième, un huitième, un dixième d'eau, etc. etc. Ça n'avait rien. Mais n'empêche que le vin vieux, le vin rare, hein, faisait rêver les gens, faisait parler de régions entières, etc., etc. Bon. Et quant aux vins normaux, la notion de maturité n'était pas la même qu'aujourd'hui. Dans beaucoup de régions, jusqu'en 1720 et 1730, on va voir pourquoi ensuite, hein, un vin était dit vieux quand il avait 2 ans ou 3 ans. Le vin jeune, c'était celui hein, pratiquement de l'année, et le vin vieux, il avait 2 ans. Hein. Bon. Et même dans les vins de table que nos parents et nos grands-parents achetaient, un vieux machin truc, c'était un vin qui avait à peine 2 ans. Hein. Bon. Pourquoi ? Parce qu'on ne savait pas faire des vins capables de vieillir, tout simplement. On ne savait pas. Les vins capables de vieillir, on va commencer à les faire tout au long du XVIIIe siècle, et plutôt dans la deuxième moitié que la première moitié, pour des tas de raisons. D'une part, parce qu'il y a le développement de la bouteille en verre, qu'on n'avait pas avant, du bouchage, etc., etc. Et puis surtout, on trouve le moyen d'utiliser la mèche soufrée, les fameuses allumettes hollandaises, hein, qui permettent de stabiliser les éléments, la matière du vin, et qui vont, quelquefois même à la surprise de ceux qui ont utilisé ces moyens-là, qu'on utilisait pour stabiliser pour les voyages d'abord. On n'a pas pensé que ça ferait des vins qui seraient bons 40 ans après. On a pensé que ça serait des vins qui seraient bons dans les voyages et qu'on n'avait plus besoin de couper avec des alcools, hein, comme on le faisait pour qu'ils se stabilisent. Parce que souvent, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a eu ce développement des eaux de vie en Charente ou ailleurs, c'est parce qu'on les ajoutait par 10 litres, par 20 litres, par 30 litres, ça rendait les vins plus commercialisables. Donc on s'est mis à faire des vins qui tenaient mieux. Et on s'est aperçu qu'au vieillissement, ils étaient très bons. Et là, une culture du vin vieux, mais du vin de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, avec pratiquement aucun ajout, hein, le vin naturel, hein, a commencé à intéresser les gens. Et on s'est aperçu que les vins français étaient plus capables que d'autres de vieillir, parce que les Français ne buvaient pas de vin vieux. Ce n'est pas du tout une tradition française de boire un vin qu'on dirait comme aujourd'hui à maturité à 10 ans. 95% du vin français était bu jeune. Encore, quand j'étais jeune journaliste, la plupart des vignerons que je voyais buvaient tout au long de l'année le vin jeune, le vin de l'année, quelquefois le deuxième, le troisième vin, le quatrième vin, quelquefois la repasse, c'est-à-dire du vin qu'on avait fait avec de l'eau qu'on remettait. Et c'est ça qu'ils buvaient tous les jours. Et ils vendaient leur vrai vin, leur vin capable de vieillir au commerce, et ils le buvaient pour les anniversaires. Bon, si vous voulez, c'est... Bon. Et puis on voyait dans les écrits des vignerons que les vins ne vieillissaient pas, qu'au bout de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, sauf dans certaines régions où on a commencé, dès 1840-50, après ces révolutions techniques dont j'ai parlé, à se rendre compte que la couleur tenait, que le vin gagnait en complexité, etc., etc., etc. Bon. Donc, le vin que nous avons et que nous avons aujourd'hui et qui est fait aujourd'hui, eh ben, c'est l'héritier direct de ces grandes révolutions technologiques qui se sont créées tout au long du 19e siècle, avec une viticulture qui elle-même progressait, avec une connaissance, grâce à la pharmacie, grâce à Pasteur, d'un certain nombre de choses sur la fermentation, qui ont permis ensuite de mieux la contrôler, de mieux la comprendre, et on va y revenir tout à l'heure. Hein, et grâce à ça, cette notion de vieillissement est intéressante. Mais ce n'est pas le vieillissement qui nous importe aujourd'hui, c'est la maturité. Qu'est-ce que la maturité? Alors, il y a la maturité du fruit. Celle-là, nous la connaissons tous, puisque nous mangeons tous des fruits. Et nous savons ce qu'est un fruit pas mûr, nous savons ce qu'est un fruit bien mûr, et nous savons ce qu'est un fruit trop mûr. Bon, on imagine que pour le vin, pour faire du bon vin, c'est un peu comme pour les autres fruits, il vaut mieux faire du vin avec un fruit mûr. Bon. Après, on n'est pas toujours maître de cette maturité-là du raisin, mais là, il y a quelque chose de rationnel, quelque chose de visuel, quelque chose qu'on peut comprendre. Mais le vin, c'est autre chose. Ça n'est pas le fruit. Ça n'est pas le jus de fruit. Et là, j'insisterai jamais assez à tous ceux qui font l'apologie du vin fruité. Si vous aimez le fruit, hein, buvez du jus de fruit. Ne buvez pas du vin. Le vin est une création. Ce n'est pas une donnée, c'est une création naturelle, parce que des levures, qui sont des éléments vivants et naturels, vont transformer le jus de fruit en un produit alcoolisé. Je ne vais pas revenir, vous savez tous hein, ce que la levure est capable de faire. Hein. Ce n'est pas l'homme, là, c'est la levure, hein, l'artiste, le fabricant. On l'oublie un peu, hein. Et pas simplement la levure qui est sur le raisin ou la levure de terroir, hein, qui est aussi une de ces idées hein, un peu bizarroïde quand on dit que c'est de loin la plus importante ou la meilleure, mais les levures qui sont dans les caves. Et puis, il n'y a pas simplement les levures, parce que les levures font une partie de la fermentation et les bactéries font une autre, si vous voulez. Donc, dans l'élaboration du produit et du vin, dans l'évolution de ce qui pourra le conduire à maturité, il y a un élément vivant d'ordre microbiologique, donc une activité des levures, et c'est un bordel total, l'activité de levures. C'est des millions et des millions de levures qui, sexuellement, se... c'est pas que... Alors, l'homme peut essayer de surveiller, peut essayer par les températures, mais en fait, elle décide. Il y en a beaucoup, parce qu'il y a une année où il n'a pas plu, et donc... les levures, il y en a beaucoup sur le raisin. Il y a des années où il a plu juste avant et ça a lavé le raisin. Il y a moins de levures. Hein. Ce n'est pas les mêmes qui commencent et qui finissent d'une année sur l'autre, etc. C'est un grand bordel qu'on comprend de mieux en mieux parce que la microbiologie a fait des progrès extraordinaires dans la connaissance, mais elle n'est pas remontée dans le grand public qui continue à entendre les discours simplificateurs idéologiques des gens qui croient que... Il y a les bonnes, il y a les mauvaises, il y a celles qui donnent des bons goûts, des mauvais goûts, il y en a qui vont chercher des choses. Bon, donc c'est une première activité. Et il y a, une fois que l'alcool est terminé, il y a une seconde activité, soit d'autolyse, soit avec les levures mortes, soit avec le travail des bactéries, car c'est elles qui dégradent les acidités, qui en principe, dans une échelle normale de vinification, se passe après la transformation du sucre en alcool. Mais maintenant, en raison de raisins différents, quelquefois ça commence avant, après, c'est là que l'homme doit faire la police. C'est là que le vinificateur doit faire la police. Mais en gros, il y avait une activité bactérienne, si on n'intervenait pas, qui transformait les acidités après les sucres et qui commençait un travail de, je dirais, le mot minéral le résume, mais de passage du fruit au fruit alcoolisé transformé par la levure à des éléments du sol qui sont d'ordre plus minéral, plus salin, plus tout ce que vous voulez. Bon. Et il faut que cette étape soit complète, nous le savons aujourd'hui, avant de mettre le vin en bouteille. Vous voyez cette évolution. Pour qu'il y ait une maturité et une évolution qui soit intéressante, et qui soit une avancée vers plus de plein de choses, il faut arriver à mettre en bouteille quelque chose qui a eu un cycle complet. Mais cette chose qui a eu un cycle complet, ça m'amuse beaucoup, est une chose d'une certaine façon morte, parce qu'elle est complète. Il n'y aura plus d'activité proprement vivante, il y aura une autre forme d'activité qui va être là, mais qui n'est plus la vie. Donc, tous ceux qui vous parlent de vin vivant et tout, etc., c'est que le vin est tordu. Un très bon vin qui commence sa vie en bouteille est un vin qui, d'une certaine façon, ne vit plus. C'est donc, d'une certaine façon, un cadavre. Mais c'est un cadavre dans lequel des choses vont se produire. Et il va y avoir une sorte de moments de grâce, qui peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui est ce que nous appelons la maturité et le vin à maturité, et qui est le fondement. Alors, on peut parler de cadavre exquis ou tout ce que vous voulez. Vous avez une expression qui est « odeur de sainteté », qui permettait de dire que peut-être quelques jours après leur mort, les saints sentaient bon, je plaisante, mais il y a toujours eu cette ambiguïté entre le développement cadavérique de putréfaction des choses et un développement très intéressant. Aujourd'hui, la mode, c'est la putréfaction. C'est-à-dire, il y a un retour des choses qui sentent mauvais, et il paraît que c'est ça qui est naturel, et tout ce que vous voulez, pourquoi pas. Mais dans notre vraie tradition, quand on parle de maturité, il faut qu'on ait plus de plaisir, plus de sensations, plus d'émotions avec le vin qui a avancé par rapport au vin qui était tout jeune. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, ce qu'on met en bouteille, on le met dans un endroit qui est très réducteur, on le bouche, et plus le bouchage est réussi, quelle que soit la forme de bouchage, plus le milieu est réducteur. Notre grand maître Peynaud disait que le meilleur bouchage, c'est le bouchage à l'émerie. Donc, les gens qui disaient « il faut que ça respire au travers du bouchon et tout », non, le bouchon va aider à respirer parce qu'il y a de l'oxygène dissous dans le bouchon. Mais un bouchon qui laisse passer trop d'air, etc., la bouteille, elle vieillira mal. Ça, vous en avez tous fait l'expérience, etc., etc. Donc, si vous voulez, on est dans un milieu doublement réducteur et c'est le peu d'oxygène qu'il y a eu pendant l'élevage, avant qu'on le mette en bouteille, et qui avait dans dissous peut-être qui est rentré pendant la mise en, qui va être un élément qui va nous transformer cet élément qui était d'une certaine façon mort dans le vin, et qui va nous sembler, en tout cas, et de façon générale, quel que soit l'âge, de plus en plus intéressant pendant un certain nombre d'années. Bon. Alors, ces phénomènes d'oxydoréduction, ce sont des phénomènes, évidemment, de commencement de dégradation de la matière. On n'y peut rien. Mais là encore, il y a un parallèle avec nous. Quand nous vieillissons, nous perdons chaque année, je ne sais plus combien de milliers de machins de neurones, nous avons une oxydation de notre propre matière, puisque nous avons des éléments oxydatifs et nous avons des antioxydants dans le corps humain qui sont les mêmes que le vin. Le glutathion, qui a été une révolution pour connaître le vieillissement trop rapide des vins blancs, etc., nous avons des glutathions dans le corps humain. Nous avons quelque chose qui, dans la matière vivante qui est la nôtre, elle aussi, par la maturation, se transforme. Bon, alors avec la transformation physique, qui est plus ou moins réussie, on fait ce qu'on peut. Sans parler du travail de l'intelligence. Mais tout de suite, les gens ont compris que dans le vin, il se passait quelque chose qui ressemble au cours de notre vie aussi. Et on en a parlé avec les mêmes mots, les mêmes expressions, les mêmes émotions. Et malheureusement aussi, les mêmes inégalités. Parce qu'il y a des inégalités qui sont dues à l'inégalité des talents et des savoir-faire humains. Bon. Ça, il faut l'admettre, je serai jamais Mozart. J'aurais un avantage, j'aurais vécu un peu plus vieux que lui, mais enfin, j'aurais aimé plutôt avoir son génie. On n'est pas tous pareils. Mais ça, alors là, ça, on entre dans l'idéologie, dans la politique. Il y en a qui veulent le nier, il y en a qui veulent... Et puis, ce qui est beaucoup plus terrible, c'est une inégalité naturelle, c'est-à-dire l'inégalité de la nature. C'est-à-dire qu'il y a des sols, des terroirs, des origines, des climats, des années, qui sont des phénomènes naturels qui ne dépendent pas de l'homme. Le réchauffement climatique, on peut toujours discuter, mais si vous voulez, il y a ces données-là, et ces données font des choses très inégales. Vous allez dans un département donné, prenons la Gironde, vous allez dans un endroit donné, vous allez avoir des vins très agréables à 2 ans, à 3 ans, peut-être pas très complexes, mais très agréables, vous les faites vieillir 15 ans, alors que analytiquement, ils ont le même alcool, la même teneur en tannin, la même tout ce que vous voulez, ils ne vont pas faire des vins beaucoup plus intéressants que quand ils avaient 2 ans ou 3 ans. Puis vous avez d'autres terroirs où ce n'est pas pareil, où pour des raisons mystérieuses et avec des éléments analytiques qui sont semblables, vous avez des éléments qui, dans une majorité d'opinions, parce qu'il y a toujours des gens qui n'aiment pas, ou qui, pour une grande majorité, eh bien, sont plus complexes. On gagne dans... on acquiert une sorte d'expression plus aboutie, plus compréhensible, plus harmonieuse, que nous ressentons tous, ou pratiquement tous, si on est de bonne foi, parce qu'il y a aussi les gens de mauvaise foi, de bonne foi que nous ressentons tous, et qui se fait dans plusieurs directions. La première direction, qui est la synthèse de toutes les autres, ça nous donne plus de plaisir. Mais si on analyse d'où vient ce plaisir, on va voir les directions dans lesquelles cette maturité s'est opérée. D'abord, elle s'est opérée dans les informations du terroir et du millésime. De façon très étonnante, un vin bien fait venant de certains terroirs privilégiés, mais qui sont quand même relativement nombreux. Il y a de quoi satisfaire la soif de millions et de millions de buveurs à travers la planète. On a l'impression qu'il vous donne plus d'informations sur leur origine et sur leur millésime. C'est-à-dire qu'on va ressentir, prenons un Pauillac ou prenons un Nuit Saint-Georges ou prenons un Châteauneuf du Pape, on va sentir plus Châteauneuf du Pape à 9 ans qu'à 2 ans. On va le sentir plus, voilà. Et si on prend une propriété, on va se dire, tiens, ça fait plus Lafitte à 15 ans qu'à 2. À 2, c'est du cèdre, c'est du jus de machin, mais je peux le confondre, il y a encore du boisé, il y a encore de ceci, il y a encore un... Bon, donc je vais aller un peu plus dans l'information du terroir. Je vais peut-être aussi aller un peu plus dans l'information du millésime. Millésime de soleil, millésime de pas de soleil, avec quelquefois des inversions fantastiques. Prenons comme exemple ce millésime de canicule 2003, où des tas de gens, quand ils sont nés, ont dit « Oh là là, il a fait trop chaud, la vigne a souffert, c'est pas bon, ça vieillira pas, les terroirs s'exprimeront pas, on a fait des vins du sud dans le nord, on a fait des vins de l'extrême sud dans le sud, etc. » Bon, et maintenant qu'ils ont pris 15 ans ou 20 ans d'âge, on s'aperçoit que les terroirs réapparaissent, que les uns, bon, il s'est passé quelque chose de mystérieux dans cette vie en bouteille, dans ce milieu réducteur, avec très très peu d'oxygène, mais peut-être encore des tanins pour les vins rouges, avec de l'extrait sec, parce que ça aussi c'est très important, avec des matières solides. Vous savez, par exemple, peu dans le public savent que si vous prenez un vin blanc et que vous évaporez le vin blanc, il y a des éléments qui ne sont pas évaporables, qu'on appelle l'extrait sec, et que cet extrait sec, c'est plusieurs grammes dans chaque litre, et que quelquefois, il y en a plus dans un vin blanc que dans un vin rouge, malgré le tanin. C'est quand même des choses extraordinaires. Bon. Et il y a donc bien des choses à l'intérieur qui ne sont plus vivantes, mais qui sont des oligo-éléments, parce que dans l'extrait sec, vous avez des choses qui permettent cette évolution vers une expression plus marquée, du terroir et du millésime. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ça va vous donner une dimension, je dirais, cette fois-ci géométrique. Plus d'ouverture au nez, c'est-à-dire que le nez, ce que vous ressentez dans un verre, va vous paraître plus complexe, plus dégagé, plus ouvert, plus allant dans l'espace. C'est une sorte d'ouverture. Alors que quand le vin est très jeune, ça sent rien, ça sent trop le bois, ou ça sent mais ça sent rien. Tandis que, vous allez avoir. Et puis, également, dans quelque chose qui est fondamental dans la culture française du vin, et que les grands, qu'on partage aussi un peu partout dans le monde, parce que la nature est la même, qu'on soit dans les deux hémisphères ou tout, c'est pas français. Chaque fois que c'est bon, ça évolue de la même manière, chaque fois que ça doit être bon, plus de longueur, plus d'arrière-bouche. Entre un vin jeune et un vin jeune réussi, et le même vin réussi 20 ans ou 25 ans après, vous avez une sensation de plus de persistance. Donc, c'est aussi un changement dans la forme du vin, dans la sensation. Vous avez également des changements dans les sensations tactiles qui, pour moi, sont très importantes et j'aimerais que, dans le public, elles soient aussi considérées de plus en plus importantes parce que, dans notre civilisation, le nez est devenu trop... l'appréciation d'un vin uniquement sans le boire est devenue quelque chose de trop important. Un vin est d'abord aussi une boisson et un vin de grand terroir, c'est une boisson. Et donc, cette boisson, c'est la bouche qui est l'élément le plus important. Et l'arrière-bouche et les sensations tactiles comme bon. Parce que il faut comprendre comment nous fonctionnons pour le goût. Parce que ça, c'est aussi Pourquoi ? Alors, nous avons utilisé des images et des analogies entre le vin et la vie humaine. On en a parlé, c'est normal. Mais pourquoi, quand nous goûtons, nous avons aussi une sensation qui redouble à cette notion-là ? Et ça, c'est lié à notre sens. Bon, nous avons plusieurs sens. Nous connaissons maintenant leur place dans le cerveau, le mécanisme de chacun de ces sens. Nous savons aussi que le goût, l'odorat qui sont liés, c'est ceux qui ont la plus petite place dans notre cerveau. Par rapport, par exemple, à la vue, hein, qui prend une grande place, hein, bon, le goût, voilà, a moins de neurones à sa disposition, a moins de machin, a moins, bon. Hein. Alors, on peut expliquer comme on veut, il y a des explications un peu fantaisistes, mais qui m'ont toujours amusé. Quand l'homme n'était pas capable de se lever, il sentait mieux parce que les dangers venaient, hein, comme les animaux, hein, et quand il s'est levé, il fallait qu'il voie un peu plus les obstacles et les dangers, et dans l'évolution darwinienne, j'ai lu ça, mais évidemment, c'est certainement très simplifié, etc. Mais nous savons en revanche que les autres sens viennent à la rescousse de la maigreur de notre sens de l'odorat. Parce que pour que vous ayez une perception vous-même de ce que vous goûtez, il faut que vous formiez dans votre propre cerveau une image de cette sensation. C'est pas simplement c'est bon, ça, c'est pas bon, ça c'est animal, ça me plaît, c'est dangereux pour ma santé ou pas. On se trompe, hein. Vous pouvez manger des champignons vénéneux et que vous trouvez très bon. Et puis, bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, vous utilisez des images. Et ces images utilisent l'ensemble des sens. Donc, il y a une synesthésie, si vous voulez, plus grande dans ce qui concerne le goût, c'est-à-dire l'odorat et le goût, que dans ce qui concerne même la vision. Puisque quand vous goûtez le vin, certains dégustateurs ont même des sensations colorées. Pour s'expliquer ce qu'ils aiment, ils pensent en couleur, un vin sombre, un vin moins sombre. Ils ont des sensations géométriques qui sont liées aussi à la vision, architecturale, un vin qui a l'air carré, triangulaire, circulaire, tout ce que vous voulez, etc. Un de mes grands maîtres que j'ai tellement aimé qui n'est plus avec nous, mon grand maître ami Jacques Puiset, lui, vous savez comment il prenait ses notes de dégustation ? Il n'écrivait jamais un mot. Il dessinait un oiseau. Toujours à peu près le même oiseau, mais pour certains vins, la queue était plus longue, la tête était un peu plus longue. C'était un chasseur. Hein. Voilà. Alors, l'oiseau, j'ai cru comprendre que ça ressemblait à une perdrix, hein, mais vaguement, parce que ce n'était pas un très bon dessinateur. En revanche, c'était très précis. Et quand il fallait qu'il commente le vin, il regardait son dessin. Et après, il le transformait en mots. Mais ça veut dire que sa propre vision, hein, de la maturité et de l'évolution. C'est pour vous dire que dans le goût, on a cette chance extraordinaire. Hein, et puis, quand on veut communiquer, alors, ça peut être aussi musical. Moi, c'est ma formation. Donc, chacun avec sa culture, hein, on peut avoir des harmoniques ou des timbres. Le vin vous évoque un timbre, tout ce que vous voulez. Et dans la maturité, vous sentez d'un vin, c'est-à-dire dans son évolution, hein, du vin, je préfère maturation que maturité. Hein, mais c'est important, on va venir ensuite à maturité finale, maturation, on a ces évolutions, ces changements, et c'est ce qui fait que le vin nous permet de parler, de discuter, de se disputer aussi, et de faire entrer aussi d'autres choses qui sont l'idéologie, la politique, plein d'idées préconçues ou pas préconçues, les préjugés, parce qu'on n'est pas toujours intelligent, hein, chaque jour, on débite ses propres bêtises, chacun d'entre nous. Donc, bon, voilà. Bon, il y a un certain nombre d'éléments qui sont passionnants. Maintenant, maturation, on a vu ce que c'était, des phénomènes complexes, hein, de polymérisation. Alors, on peut les analyser microbiologiquement. Il y a des chaînes polymères qui se créent, hein, en tout cas pour les vins rouges, les tanins. Mais les molécules, si vous voulez, sous l'effet de ce milieu réducteur, etc., se complexifie, ce qui permet de comprendre aussi pourquoi ça nous apparaît plus complexe, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis, il y a un moment très particulier qu'on peut appeler l'apogée, où on a l'impression que le vin est allé au maximum
de ce que la nature, le terroir, le savoir-faire humain, tout ça a pu faire, puis qu'après, il va redescendre, comme dans une vie humaine. Et c'est là que c'est une chose qui est assez terrible, parce que là aussi, les conditions de conservation, la température de cave, etc., jouent un rôle. On peut gagner 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Bon, le bouchon va décider plein de choses, hélas. On n'a pas trouvé mieux, mais il y a des moments où c'est lui qui décide. Ça nous fait bien chier, mais c'est comme ça. Hein. C'est lui qui fait mourir avant l'âge 3 bouteilles. La quatrième est parfaite. Donc le vin pouvait vivre plus vieux, mais c'est le bouchon qui l'a tué. Hein. Bon, après tout, vous avez chez nous des fumeurs qui se tuent. Hein. Bon, nous aussi, nous sommes capables de nous raccourcir par nos propres bizarreries ou nos propres faiblesses à notre durée de vie. Bon. Et puis, il y a la maturité. Alors, là, c'est très particulier parce qu'on peut discuter beaucoup de ça, même pour le raisin déjà. Qu'est-ce qu'un raisin mûr? Qu'est-ce qu'un raisin trop mûr? Qu'est-ce qu'un raisin pas assez mûr? Alors, il faut le manger, le goût, tout ça, c'est encore ce qu'il y a de plus naturel comme rapport à la chose pour comprendre. Mais bon, les scientifiques ont voulu trouver des éléments scientifiques pour juger. Alors, on a le degré, l'acidité. L'acidité, il y a l'acidité naturelle. Et puis ensuite, ce qu'on a appris depuis, qui est le pH, qui est l'acidité de l'acidité, si j'ose dire. C'est celle-là qui est très importante. Hein, mais d'une certaine manière, on a quantifié les choses. C'est-à-dire, on les a traduits en nombres, en chiffres, en arithmétique. Là, c'est le littéraire qui parle, parce que je peux triompher pendant quelques minutes sur le matheux. Et quantifier la qualité, c'est impossible. La qualité n'est pas de l'ordre du quantitatif. On peut la ressentir plus ou moins, mais pour la définir, on peut des degrés de Richter dans le plaisir que vous fait quelque chose ou dans la qualité ou l'émotion que vous pouvez avoir, de 1 degré, 3 degrés, là, c'est une quantification. Mais dire d'un tableau qu'il est sur l'échelle 8 de Richter ou dire qu'un raisin est parfaitement mûr parce qu'il fait 90 10 pt et pas 85, ça, c'est une illusion totale de l'œnologie moderne. C'est plus simple. Les gens qui goûtent le raisin, qui goûtent les peaux, qui essaient de l'observer, etc. Et ensuite, on essaie de faire. Bon. Donc, et la maturité dans un vin, c'est pareil. Il y a des gens qui aiment des vins avec encore une certaine force, d'autres qui aiment des vins avec un peu moins de force. Et on peut discuter, et on peut... Voilà, des vins qui sont... Bon. Et puis, il y a les vins où on retrouve, et pour moi, c'est là le moment où on chute, et il peut arriver à 5 ans, il peut arriver à 10 ans, il peut arriver à 20 ans, il peut arriver à 40 ans ou à 5 ans, quand je ne reconnais plus ni le cépage, ni le terroir, ni le millésime. C'est à partir de ce moment-là où on a quelque chose de vieux qui peut être agréable, qui peut être, mais où ça se confond, où vous pouvez goûter un vin de 90 ans d'une région de France et d'une autre, vous n'aurez pas l'impression qu'ils viennent de deux régions différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment où tout ce qu'on avait apprécié dans l'évolution du vin, eh ben, s'achève parce qu'on finit par une dégradation. Parce que là aussi, hein, il y a une dégradation de la matière, hein, un vieillissement, un pourrissement, c'est un cadavre. Si vous voulez, là, il arrive à l'état de vrai cadavre après 40 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, 120 ans. Quelquefois, il faut beaucoup plus. J'ai goûté des vins de 1865 qui étaient encore... Je ne vais pas dire vivant, parce que je vous ai dit que c'est un cadavre depuis qu'ils sont en bouteille, mais enfin, qui ils sont en odeur de sainteté encore, 140 ans, voilà, ils ont encore le parfum. Là. Alors, je ne sais pas par quel miracle, mais ça m'est arrivé de le ressentir, alors que du même millésime ou plus aussi vieux, et même quelquefois beaucoup moins vieux, il y en avait qui étaient complètement morts. Aujourd'hui, il y avait, dans notre dégustation, qui ont été présentés, des vins que je trouvais mort à 10-15 ans d'âge parce que il y avait une oxydation de la matière telle qu'on ne reconnaissait plus ni le cépage, ni le... Bon, voilà. Ou alors on avait l'impression que c'est... Bon. Et également, alors quelquefois, il ne faut pas se précipiter trop vite pour dire que le vin est fini parce qu'il y a des moments où c'est très curieux et c'est très ambigu, c'est comme... Vous savez, quand il est 18h, 19h, que la nuit va tomber, on est entre chien et loup, hein, il y a des moments où l'homme même le très bon dégustateur, même celui qui a fait des études scientifiques, etc., prend de l'oxydation pour de la réduction et prend de la réduction pour de l'oxydation. C'est terrible. Quelquefois, il y a... Bon, alors comment savoir si c'est de l'oxydation? C'est simple. Si vous attendez des heures ou une journée et que c'est pire, c'est que c'est de l'oxydation. Si c'est meilleur, un jour après, c'est que ce que vous croyez être de l'oxydation n'était pas de l'oxydation, c'est-à-dire que le vin avait besoin de plus d'air encore, de plus d'oxygène pour trouver son équilibre, pour trouver sa maturité, etc. Et c'est l'origine de beaucoup de nos erreurs d'appréciation, parce qu'on fait des erreurs, tout le monde, hein, y compris les professionnels, comme les particuliers. On a quelquefois enterré trop vite, si j'ose dire, certaines bouteilles, et quelquefois... Mais c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné ou un autre, ça bascule. Et je pense qu'on peut tous s'accorder, quelles que soient nos idéologies, nos idées, notre philosophie, on peut s'accorder sur l'idée qu'à partir du moment où les informations qu'on pensait être celles du terroir, du millésime, du cépage, du savoir-faire disparaissent, le vin commence un processus, je dirais, de dépassement d'une maturité idéale. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant comme vieillissement, sans parler du fait que quand vous goûtez des bouteilles de 80 ans, 90 ans, 100 ans, il y a l'histoire qui est là. Vous avez à ce moment-là, pour remplacer l'émotion que le goût ne vous donne pas, vous avez tout votre imaginaire, vous dites, tiens, là, il y avait quoi comme histoire? Là, il y avait qui? Ah ben là, c'était Napoléon III qui était encore au pouvoir. Là, vous ne pouvez plus revivre, on ne peut pas revenir dans le passé, mais on peut goûter et le boire, le manger, l'intégrer à notre corps. Hein. On peut goûter quelque chose qui est étonnant. Hein. Quelqu'un qui n'a jamais connu mai 68, bon, je ne lui conseille pas parce que c'était un millésime épouvantable, 68, mais bon, il peut toujours boire le vin du millésime 68. Et se dire, ah ben voilà, cette année-là, il a fait froid tout le long du mois, il a fait beau, pardon, tout le mois de mai, et c'est pour ça que tout le monde était partout, il a fait très beau, très beau, très beau, qu'en revanche, pour le raisin, dès que le processus de maturité a commencé, il s'est mis à pleuvoir, que tous les raisins en France étaient pourris, alors que le mois de mai avait été absolument magnifique. Bon, pour vous dire, il y a des millésimes qui sont comme ça, mais quelquefois, vous vous dites, millésime 1945, bon, la fin de la guerre 45, millésime de la victoire, il y a quelque chose, etc. Et donc, quelquefois, dans les très vieux vins et dans le prestige qu'ils peuvent avoir et dans l'émotion qu'ils peuvent donner, il y a des choses qui sont au-delà du goût. On avait parlé du goût, hein, et il y a quelque chose qui est au-delà et que le vin est peut-être le seul produit agroalimentaire à pouvoir vous donner, quoi, hein, parce que si vous prenez une côte de bœuf et que vous lui donnez 45 ans de vieillissement, même en chambre froide, peut-être que le goût ne sera pas pareil. Hein, bon. Donc, il y aura des usures. Bon. C'est assez étonnant parce qu'il y a de l'alcool qui maintient, parce qu'il y a du tanin, parce qu'il y a des molécules dont la dégradation terminale est beaucoup plus lente. Hein, mais vous avez aussi ce rapport à l'histoire qui est absolument merveilleux et qui fait qu'on gardait du vin pour les anniversaires de ses enfants, puisque l'enfant, il avait le vin de son année de naissance, à 10 ans, à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans. Et vous avez tous éprouvé, si on vous sert le vin de votre année de naissance, même s'il n'est pas bon, vous allez le trouver bon. Et de toute façon, vous aurez toujours une bonne raison d'être content, parce que soit il est mauvais et vous vous dites « je suis mieux conservé que lui », soit il est très bon et vous goûtez un très bon vieux vin. Donc, vous êtes toujours très content de boire le vin de votre année. Hein, bon. Hein, et en même temps, vous comparez votre propre vieillissement à celui de la bouteille. C'est normal, ça fait partie de cet élément de maturité et du fait que le vin est un produit de civilisation, un produit, je dirais, d'échange, un produit de discussion entre les âges d'abord, les vieilles personnes, les plus jeunes personnes peuvent échanger autour d'une table. Hein, c'est la convivialité, c'est au fond le centre du banquet hein, où on peut discuter, où on peut bon voilà. Et ce produit-là, la capacité qu'il a de vieillir, soit dans les vieux vins de l'Antiquité, mais avec leur style et le fait qu'on mettait de l'eau dedans, soit avec les vieux vins que nous sommes capables de faire aujourd'hui, qui sont vraiment l'évolution d'un phénomène qui a été le microbiologie, qui a été le travail des levures et des bactéries, et puis le travail du temps, eh bien, cette notion est très importante. Or, elle est, en ce moment, battue en brèche par l'évolution de notre mode de vie. En général, beaucoup de gens n'ont plus de cave pour laisser vieillir les vins, n'ont pas non plus assez d'argent. Hein, bon. Et quand ils ont besoin de vin, ils vont l'acheter à la boutique, ils vont le boire le lendemain du jour où ils l'ont acheté, si vous voulez, etc. Et on sert des vins très jeunes. Et dans les restaurants, pour des raisons de fiscalité, parce que nous avons une fiscalité confiscatoire depuis Louis XIV, etc., on fait payer aux vignerons des taxes sur des vins qu'ils n'ont pas encore vendus, par rapport aux bénéfices qu'on peut imaginer qu'ils feront lorsqu'ils le vendront. Donc, si vous voulez, bah oui, mais c'est la fiscalisation qui fait que les vignerons ne gardent plus de stock. Les seuls à garder du stock, ils sont là au fond, c'est nos amis champenois. Hein. C'est les derniers à avoir du stock. Hein. Bon, à avoir 4 années, 5 années et à mettre en vente des vins de 10 ans, de 15 ans. Allez voir un vigneron qui fait du Chambertin, s'il a un vin de 15 ans à vous vendre ou de machin, déjà, il vous limite à 3 bouteilles le vin du dernier millésime, qu'il met en bouteille de plus en plus tôt parce qu'il y a des demandes, etc. On est dans un phénomène, pas simplement d'excès de confiance dans la jeunesse, de jeunisme, tout ce que vous voulez, on est pressé par un monde de curiosité immédiate. Le film, il faut qu'il sorte dans les premières semaines, hein, c'est pas bon, hein, en deuxième. Et c'est partout pareil, le millésime tout nouveau, c'est celui qui intéresse, celui d'il y a 3 ans intéresse. Bon, on est dans des phénomènes qui sont de ce genre, on n'a aussi pas la place, donc on va le chercher. Les restaurants n'ont plus assez d'argent pour stocker, les vignerons n'ont plus assez d'argent, ça leur coûte trop cher le stock. Donc on est dans un phénomène où on ne boit plus que des vins jeunes. Et ce qui est terrible, c'est comme on ne boit plus que des vins jeunes, on veut que les vins jeunes vous donnent les mêmes sensations que des vins à maturité. C'est terrible. Et donc, on va modifier les conditions de production de l'agronomie, donc de la viticulture à l'œnologie, hein, pour élaborer des vins. Alors, des macérations carboniques qui font des vins plus fruités, plus immédiats. On va changer un peu, on va faire moins d'extraction. Aujourd'hui, vous avez entendu, hein, on ne fait plus que de l'infusion. Hein. Bon. Seulement, les gens ne savent pas. Ceux qui connaissent vraiment la civilisation du thé savent qu'il y a 5 à 6 degrés d'infusion dans le thé, hein, et qui sont d'augmentation du tannin avec, comme pour le vin, une courbe ascendante et puis une courbe où le tannin du thé est devenu trop amer et c'est trop tard. Mais quand on vous fait la cérémonie du thé, le même thé, on vous le sert en 4 petits verres différents qui ont eu quelques secondes ou quelques dizaines de secondes de plus d'infusion. Bon. Mais aujourd'hui, on vous dit infusion pour vous dire, moi, vous savez, hein, je ne fais presque rien, je ne touche rien, ça sort tout seul, hein, bon. Etc., etc. Et on s'habitue à des styles qui sont embêtants parce que ils sont à l'opposé de ce qu'on peut faire pour produire un vin, hein, capable de vieillir. Et puis, enfin, je terminerai sur l'évolution climatique, parce que là, c'est sûr. Et là, il faut être plutôt heureux de l'évolution climatique par rapport au sujet qui nous occupe. Alors, on peut s'inquiéter de l'augmentation du degré alcoolique, mais pour l'instant, bon, quelquefois, elle peut être gênante quand on commence à être à 15 ou à 16 degrés. Ce n'est pas tous les ans d'abord, hein, les derniers millésimes montrent qu'on est plutôt à 13,5, hein, bon, etc. On peut retrouver des degrés, on n'a plus à chaptaliser, c'est beaucoup mieux, etc. Mais surtout, ces vins qui sont plus mûrs, faits avec des raisins plus mûrs, donnent des vins jeunes, si on les vinifie bien, si on ne veut pas aller dans le jeunisme et faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, si on les vinifie bien, vont être capables de vieillir parce qu'ils ont tous les éléments de vieillissement, mais vont être beaucoup plus agréables à boire jeunes que étaient les vins faits de la même manière il y a 40 ans. Vous savez, ce n'est pas rien dans un fruit. Nous sommes quelques-uns ici à avoir connu des raisins qu'on cueillait, on était content de les cueillir à 10 degrés d'alcool potentiel. Il n'y a pas si longtemps que ça, mes premières années de journaliste. Remonter à 13 degrés par la chaptalisation. Aujourd'hui, on a des 13 naturels un peu partout. La Champagne est passée du 8,5 degrés à du 12, ce qui est un peu dangereux parce que, non, dans certains cas, oui, mais la moyenne est à 10 parce que c'est normal, il faut une deuxième fermentation. Quand vous commencez à cueillir à 12, vous n'allez pas faire un champagne final qui fait 15 degrés d'alcool. Hein. C'est ça le problème. Donc les champenois sont toujours obligés d'être raisonnables. Et c'est un vin qui se fait en deux fois. Donc c'est un cas un peu à part. Mais pour nos autres vignobles de vin tranquille, un changement de 3 degrés ou de 3,5 degrés de maturité, c'est énorme comme changement dans le raisin, dans la baie, dans son goût, dans le caractère du tannin, dans le caractère de... Hein, bon, c'est pas pour plaire aux Américains, c'est pas pour... Parce qu'on raconte que des blagues, hein, bon. Hein, et on dit, oh, les vins d'avant étaient bien meilleurs. Ben, tous ceux qui me racontent que les vins d'avant, hein, quand on était obligé de rajouter 3 degrés de chaptalisation et qu'on se moquait de la chaptalisation, parce que les mêmes qui regrettent ces vins-là sont les mêmes qui fulminaient contre la chaptalisation il y a 30 ans. Mais la contradiction, ça ne les gêne pas. Hein, bon. Eh bien, on devrait les condamner tous les jours à en boire. Et à un moment donné, ils diraient, ciel, non, 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 je préfère boire les vins réussis qu'on fait aujourd'hui. Hein, bon, on ne les a jamais fait aussi bons. Et on a cette chance de pouvoir associer, avoir des sentiments dans la jeunesse de vin qui vous donnent des satisfactions, qui vous donnent un sentiment de maturité, déjà, même jeune, un sentiment de maturité, et qui vont pouvoir donner encore des expressions beaucoup plus complexes dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, ça j'en suis sûr. Il y a eu une révolution, par exemple, à Bordeaux. Ça m'a toujours frappé. J'ai eu la chance de vraiment commencer ma vie de critique et de journaliste avec le millésime 82, qui était le premier millésime de raisin à peu près mûr depuis 15 ans à Bordeaux. Mûr, pas comme aujourd'hui, hein. Ça faisait 11,5, 12. Hein. Bon, enfin, c'était déjà un progrès par rapport aux 9,5 ou aux 10 des Cabernet Sauvignon de Pauillac, même à la Tour ou à Lafitte. Hein. Bon. Et le vin qui faisait 12, parce qu'il ne faisait pas 13 en vin fini, mais il faisait plutôt 12. Bon. Et c'est, si vous voulez, c'est, je l'ai vu, mais les vieux de la vieille disaient, ils vieilliront pas, ils sont pas bons, c'est déjà le goût américain qui est là, les terroirs se confondent, c'est des vins Peynot, ils disaient pas Roland, parce que Roland était pas connu, mais c'était le pauvre Peynot qui en prenait pour son compte, hein, hein, bon, hein, hein, parce qu'il voulait des acidités basses et des raisins mûrs, hein, bon, voilà. Nous savons aujourd'hui que ce type de vin, c'est celui qui a le mieux vieilli. Hein. Bon. Avant, si vous voulez, pendant très longtemps, on a fait croire aux Français il y avait des évolutions très favorables dans les grands millésimes. Dans les petits millésimes, on vous demandait de les faire vieillir parce qu'on vous disait, là, c'est râpeux, etc., mais tu verras, mon petit, dans 15 ans, ça va être bon. Ça veut dire qu'il fallait user le défaut. Il ne fallait pas accentuer la qualité initiale. Il fallait user le défaut pour que le vin soit buvable. Or, nous avons parlé d'usure, mais d'usure qualitative, c'est-à-dire d'évolution, hein, puisque le vin ne fait que s'user à partir du moment qu'il est en bouteille. Mais il y a quelque chose qui se produit, qui vous donne des sensations plus bonnes, et en même temps des sensations qui sont des informations de terroir et de millésime qui sont encore plus marquées, et c'est comme ça que ça se produit. Et j'espère, on est dans une phase très heureuse. Vous qui êtes plus jeune, vous avez cette chance. Vous allez pouvoir les voir vieillir 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Nous, moins, mais on aura eu notre part de belles bouteilles aussi du passé. Donc, c'est normal. Hein, hein, et ça fait partie de la vie. Et c'est le parallélisme, toujours, j'espère, qu'il va continuer pendant très longtemps, de civilisation, entre ce produit de civilisation qui est le vin, et puis nous, hein, êtres humains, soit en tant qu'individu, soit inscrit dans une société. J'espère qu'on sera encore dans une société, qu'on ne sera pas enfermé avec nos puces et nos machins, chacun de son côté. Bon, je ne sais pas ce que l'avenir... mais j'espère quand même qu'il y aura encore de l'intra-communication entre les âges et entre les... voilà, bon, nous verrons. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Bon. Il fallait parler de maturité. On a essayé de voir le problème dans tous ses angles, tout son univers, tout ce qui fait que le vin est un produit passionnant, quoi. Voilà. Unique. Ben oui, on va échanger maintenant. On n'est pas chacun, voilà.
Une question est posée dans la salle. Les changements dans les pratiques à la cave sont-elles antinomiques de la capacité au vieillissement ?
Les hommes ont toujours fait des bêtises. Les mômes ont toujours fait des bêtises. C'est pour ça qu'il y a des profs. Nous savons, quand nous avons été profs, qu'on fait toujours la bêtise au même endroit. Quand on a été un peu musicien, on sait très bien... la mesure où tout le monde va se tromper parce que c'est compliqué, bon. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. Bon, les sociétés peuvent faire des bêtises. Les êtres humains peuvent faire des bêtises. Aujourd'hui, je n'ai pas caché le sentiment que j'avais de bêtises, de notions de vin vivant, de vin machin, d'aimer la déviance. Ah, vous n'aimez pas les vins déviants ? Ah ! Ben non, j'aime pas les vins déviants. J'aime les vins qui vont dans la droite route. Bon, le vin, alors, tout ça, on l'intitule rebelle contre un ordre établi, etc. Mais la révolution, ce n'est pas la déviance. Attention, la déviance, traviata, attention, le mot italien, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça, ce n'est pas bon. Je veux dire, c'est... voilà. Heureusement, l'homme a quand même progressé en hygiène, etc. Si la déviance, c'est de plus se laver, de plus prendre de douche et de remanger des produits qui sont avariés, parce que je dis à des cuisiniers qui adorent les vins avariés, parce que ces vins-là sont des vins avariés, je leur dis, si tu me servais une viande aussi avariée que le vin que tu me sers, tu te suicides. Mais lui, il trouve bon, parce qu'il y a une odeur de choses avariées dans le vin et que ça lui semble être un élément... Bon, on fait des bêtises. Oui, ben ces bêtises-là, ben ce sont des bêtises de civilisation. Vous savez qu'aujourd'hui, on comprend moins le nombre de mots. Il y a des gens qui ne comprennent plus que le sens de 800 mots, de 700 mots, de 600 mots, qui sont très doués pour des hashtags, mais dès qu'une phrase, ils ne sont plus capables de la comprendre. Donc, vous simplifiez les mots, puisque c'est des images. Je vous ai dit tout à l'heure que le goût, vous êtes obligé de fabriquer une image, de vous fabriquer un langage. Pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter à l'intérieur de vous-même de votre propre goût, si j'aime ou si j'aime pas, et de pouvoir en discuter avec les autres. Mais si vous vous simplifiez complètement la vie, si vous n'avez rien entre le génial et le nul, si vous n'avez rien dans le sens des nuances, etc., vous allez aimer des vins, vous n'allez plus comprendre le sens des nuances dans le vin. Bon, ben, ça, c'est une régression de civilisation. Ce qui me rassure, c'est que nous sommes tous passés depuis des milliers d'années par des périodes de régression et de reprogrès. Bon. Mais le bon cerveau humain, c'est toujours le même. Le cerveau de Socrate était aussi bon que le cerveau du président Macron. Mais j'ai rien contre le président Macron, mais je dis tout simplement, les grands esprits du passé, ou les bons esprits du passé, ont la même façon de fonctionner, les mêmes passions, la colère, la jalousie. Nous n'avons pas changé, nous. Les civilisations et les cultures changent. Il y aura peut-être une période d'un siècle, de deux siècles, on fera de moins bon vin, et puis on reviendra, peut-être, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas du tout ni pessimiste ni optimiste. On ira là où on a envie d'aller. Voilà. Alors après, c'est le public qui peut faire barrière. Le public peut dire, moi, je ne veux plus de ce type de vin, ou moi, je veux aussi retrouver des vins capables d'atteindre la maturité, ou moi, j'aime un grand Pauillac ou un grand Gevrey Chambertin ou un grand Côte Rôti quand il a 15 ans d'âge et je le préfère quand il a 2 ans d'âge. Vous pouvez le dire, même. Vous pouvez même chez vous commencer à en accumuler un peu pour que vos enfants puissent le sentir. Ça, c'est du ressort de chacun d'entre nous. C'est une réaction. C'est ça la vraie démocratie. La démocratie, c'est la volonté par j'en veux ou j'en veux pas. Bon. Si vous décidez de dire « ça c'est bon, c'est mieux » et puis tous les vieux n'ont rien compris, il n'y a que moi qui ai compris les choses, bon. Ou si les vieux disent « les jeunes n'ont rien compris à rien », parce que les vieux peuvent être aussi cons que les jeunes et inversement, hein, si vous voulez, bon, ça ne va pas. Hein. Le vin d'aujourd'hui, c'est l'accumulation de très grands progrès. Pas simplement de progrès de la technique, parce qu'on pense toujours que c'est la technologie qui a progressé. Pas du tout, c'est la connaissance qui a progressé. L'agronomie, l'œnologie, ce sont des sciences. Ce ne sont pas des idéologies. Ce sont des sciences. L'idéologie, que vous soyez de gauche, de droite, de machin ou de trucs, il y a des préjugés là-dedans. Il y a religion, que vous soyez croyant, pas croyant, etc. La science, ça se vérifie. On comprend des phénomènes. Pendant très longtemps, on ne savait même pas comment le vin était fait, parce qu'on n'avait aucune idée de bon. Pendant des générations, les gens ne savaient même pas que le sang circulait dans le corps. Hein. Et les premiers qui ont dit le sang circule, on a failli les foutre au bûcher et les exécuter comme étant bon. Le premier qui disait que la Terre était ronde, attention, oh là là. Puis il y a encore aujourd'hui des gens qui croient qu'elle est plate, hein. Bon, hein, etc., etc. Bon. Si vous voulez, il y a eu des progrès scientifiques. Après, est-ce qu'il y a des progrès dans l'esthétique? Ça, c'est une question très ouverte. Est-ce que les grandes œuvres d'aujourd'hui seront aussi grandes que les grandes œuvres du passé et tout? Nous verrons. Hein. C'est des autres dimensions. Mais si vous voulez, dans cette dimension-là de vin, dont on a modifié la technique pour qu'ils soient bons plus jeunes, mais dont on sait qu'ils vieilliront moins bien, ils ont... leur clientèle. Ils doivent exister parce qu'on doit aussi pouvoir goûter des vins jeunes qui sont bons, bien faits, etc. Je ne dis pas qu'il faut... Au contraire. Mais il ne faut pas que des vins qui étaient capables de faire des vins de vieillissement, de maturité, etc., ces terroirs, où c'est un peu injuste. Parce que, mon Dieu, bon, l'homme, qui les rende plus intéressants, ces terroirs, pour obéir à la mode, oublie ça et fasse évidemment un vin de... Moi, je vois les semi-macérations carboniques en Bourgogne, c'est une catastrophe. C'est pas possible. On retrouve des goûts d'acétone et de vernis à ongles dans des vins rouges d'aujourd'hui, ça va pas. Hein. Bon, je goûte des choses un peu bizarres, hein. Bon, même dans des vins blancs où on va chercher des choses aromatiques par des excès de technologie, des excès de macération. Bon, pourquoi pas? Mais pourquoi pas non plus, hein. Je veux dire, c'est... À un moment donné aussi, ce qui est rassurant, c'est que quand le vin a été issu et sorti d'un bon terroir, bien fait, bien vinifié, la créativité de l'homme et le style qu'a voulu donner l'homme par ses interventions de vinification finit avec le vieillissement par s'estomper et le terroir prend la place de l'homme. Un grand vigneron de Saint-Estèphe me disait toujours « Les 5 premières années de la vie de mon vin, c'est moi ». Quand il commence à avoir 6 ans, et vous voyez qui c'est le cher Henri Dubosc, après 6 ans, 7 ans, ça redevient un Saint-Estèphe. C'est plus mon vin. Bon, si vous voulez, on a quand même ce sentiment que ça se rattrape, à condition qu'il y ait eu un minimum dans le protocole de vinification qui respectait le raisin de départ. Oui. Voilà, bon. Et puis après, on ira là où on veut aller. Hein. Bon, c'est pas de notre sort. Hein. Bon. Mais pour l'instant, je vous rassure, les meilleurs vins faits aujourd'hui sont des vins qui vieilliront très 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 bien et qui auront des maturités exaltantes pour ceux d'entre nous qui auront la chance de vieillir suffisamment pour les boire dans 15 ans ou dans 20 ans. De même que vous avez éprouvé aujourd'hui des émotions avec des vins remarquables qui avaient 15 ans ou 20 ans d'âge. Hein. Et quant au champagne, alors là, ça me fait d'autant plus plaisir qu'on a pu croire et faire croire aux Français que le champagne devait se boire vite, évidemment, et aussitôt, etc. Parce que comme ça, une fois qu'il est bu, on en refait un autre, on en revend un autre. Mais non, le champagne, par son mode d'élaboration, et à condition de certains terroirs, est un produit qui vieillit extrêmement bien. Et qui prend... Mais ça, les Français ne le savent pas toujours. Hein. Ils ont ça pour les vins vieux rouges, blancs, parce que leur père, leur grand-père leur a dit, mais le champagne, c'était un truc... Bon, voilà, eh ben non. Et d'ailleurs, les maisons aujourd'hui sont les dernières à sortir et à mettre dans le commerce des vins de 15 ans, de 20 ans d'âge, très chers, mais c'est très bon. Et puis c'était cher parce que ça leur coûte cher à faire. Hein. Faut la longue patience, vous savez, c'est une longue patience. Hein. Bon, hein, hein, elle doit se payer un prix. Vous avez vu avec les portos l'intérêt du vieillissement, avec les Tony, hein, il y avait des 50 ans et 80 ans aujourd'hui, c'était incroyable. Hein, cette capacité de prendre, bon, c'est normal. Hein, eh bien, voilà. Alors, là où ça m'a fait du bien, c'est qu'en Champagne, on retrouve les vieux champagnes qui avaient un peu disparu. On pensait que c'était... Il y a encore beaucoup de faux amateurs de champagne. Vous dites, moi, j'aime pas les champagnes vieux, c'est pas bon. Hein, le type qui vous dit ça, ça sera jamais un amateur de champagne. Il n'aura rien compris au champagne. Voilà. Mais c'est pas ça... Il a le droit. Hein. Il peut aimer autre chose dans la vie hein, et être expert en plein d'autres choses. Mais voilà, bon. Chacun a son degré d'expertise. Voilà. Si vous avez d'autres, on peut y aller. Je ne sais pas. J'ai passé l'heure. Hein. Voilà, je pensais que je n'arriverais pas à parler une heure, et puis je suis arrivé.